Et c'est avec vous Marc Potvin, bonjour Marc.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Deux mobilisations s'agrègent aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Celle contre la proposition de loi sécurité globale et celle contre la précarité. Nous y revenons dès le début de ce journal. Un drapeau français et un drapeau européen sur le cercueil de Valéry Giscard d'Estaing ce matin, obsèques à Autun dans le Loir-et-Cher, département qui a compté dans la vie de l'ancien président de la République, nous le verrons. Donald Trump quittera bientôt la Maison Blanche, mais il n'a pas renoncé à prendre des décisions stratégiques. Le président des États-Unis ordonne le retrait de la majorité des troupes américaines de Somalie d'ici le début de l'année prochaine. À la fin de ce journal, la bulle éco, signée aujourd'hui Catherine Pétillon, consacrée à l'initiative Tech for Good. Plus de 70 acteurs du numérique s'engagent contre les contenus haineux et pour une juste contribution fiscale. À Dijon, Lyon, Lille ou encore Paris, de nouvelles manifestations contre la proposition de loi sécurité globale sont prévues cet après-midi. Face à la contestation, le gouvernement a déjà promis la réécriture de l'article 24, article le plus polémique qui encadre l'image des policiers. Mais les manifestants veulent son retrait pur et simple. Ils se mobilisent aussi contre l'article 22 du texte qui doit légaliser l'usage des drones par les forces de l'ordre. Emmanuel Leclerc, ces drones sont déjà utilisés dans la capitale.
Le préfet de police Didier Lallement ne communique pas sur le sujet, mais il fera survoler à nouveau ces drones cet après-midi, selon nos informations. Le Conseil d'État a retoqué leur usage dans le cadre des mesures Covid pour surveiller l'interdiction du jogging sur les voies sur berge de la Seine lors du premier confinement. Mais là, pour des manifestations, le préfet de police utilise les drones comme ses prédécesseurs le faisaient avec des hélicoptères, avec des caméras puissantes reliées en direct avec la salle de commandement. C'est beaucoup moins cher, mais pas plus légal pour autant, selon Bastien Lequérec, l'un des responsable de l'association La Quadrature du Net.
La préfecture de police de Paris joue un peu au chat et à la souris. Aujourd'hui, la loi n'autorise pas l'usage de drones. Demain, on serait avec une loi qui viendrait légaliser a posteriori les pratiques policières de surveillance très intrusive.
Et parce qu'il y a derrière la possibilité de légaliser dans les mois, les années à venir, la reconnaissance faciale.
On voit qu'il y a une stratégie de petits pas.
La reconnaissance faciale figure bien parmi les recommandations officielles contenues dans le dernier livre blanc du ministère de l'Intérieur pour prévenir les risques terroristes, mais aussi repérer avant et pendant les manifestations des casseurs, des black blocs, des hooligans déjà fichés par les services de sécurité intérieure.
Emmanuel Leclerc, les marches des libertés d'aujourd'hui ont été rebaptisées marches des libertés et des justices. Elles se tiennent en effet souvent en convergence avec les actions menées dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et la précarité. Journée qui a lieu chaque premier samedi de décembre. Convergence nécessaire, estime Muriel Guilbert, co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire.
Ça nous a paru quand même assez important de faire cette convergence-là parce que pour nous, en fait, cette loi sécurité globale, elle n'arrive pas par hasard et elle arrive à un moment donné où on a la persistance de ce gouvernement à valider sa réforme de l'assurance chômage alors que la crise du Covid, en fait, va mettre sur le carreau plusieurs millions de salariés. En face, la question de la répression et la question aussi de la liberté de la presse, c'est pas anodin du tout. La colère sociale, elle va continuer à monter. On a un peu une avalanche de dispositions qui s'enchaînent et qui visent à empêcher le droit de manifester, qui visent aussi à invisibiliser les violences policières. Donc pour nous, il n'y a pas de hasard en fait entre la situation sociale globale et cette dérive autoritaire de ce gouvernement qui est complètement sourd à ce que dit l'ONU, à ce que dit des instances internationales sur les atteintes que porte cette loi sur nos libertés fondamentales. Il ne s'agit pas de faire juste deux manifestations. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment le retrait de cette loi et aussi de pousser en même temps sur d'autres réformes dont on réclame aussi depuis longtemps l'abrogation, comme la réforme de l'assurance chômage.
Muriel Guilbert, co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire, jointe par Laura Dulieu. Deux syndicats de police appellent à cesser les contrôles d'identité, Alliance Police Nationale et Unité SGP Police, très remontés après des propos d'Emmanuel Macron Macron lors de son entretien aux médias en ligne brut. Le président a affirmé qu'on est beaucoup plus contrôlé quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche. Non, la police nationale n'est pas raciste, assure Alliance Police Nationale. Près de 700 personnes manifestent à Chambéry ce midi pour réclamer l'ouverture des remontées mécaniques des stations de ski. Le gouvernement a décidé de les fermer pour les vacances de Noël en raison de la crise sanitaire. Une quarantaine de personnes aux funérailles de Valéry Giscard d'Estaing ce matin. Funérailles en petit comité, conformément aux souhaits de l'ancien président de la République. Obsèques dans l'église d'Auton, petit village du Loir-et-Cher, où VGE s'est éteint mercredi à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Le département qui fait partie de son histoire, explique Pierre Alaurand, doyen de la faculté de droit d'Orléans.
C'est une relation en fait avec la famille de son épouse. C'est là qu'il s'est marié. En 1952, donc il y a passé beaucoup de temps, il y a beaucoup de souvenirs familiaux, et il fait un choix très fort, puisque c'est le lieu où il sera enterré, alors que, pour tout vous dire, moi je m'attendais bien sûr à ce qu'il reste fidèle à son Auvergne. On a toujours parlé de Valéry Giscard d'Estaing comme l'élu de Chamalières, de Chanonat, il a été président de région en Auvergne après l'Élysée, c'est là qu'il a tenté en quelque sorte son retour en politique. Au plus haut niveau, et qu'il a connu l'échec, c'est vrai, à la mairie de Clermont-Ferrand. Et c'est peut-être l'une des clés. Effectivement, le choix du Loir-et-Cher comme demeure éternelle, c'est peut-être aussi voilà, du dépit par rapport à sa région d'origine, la région de son grand-père, Agénor Bardoux, qui a fait toute une carrière politique très longue sous la Troisième République. Voilà, c'est aussi une rupture, en fait.
Pierre Alaurand, doyen de la faculté de droit d'Orléans avec Rosalie Lafarge. Les obsèques de Monseigneur Tessier seront-elles célébrées cet après-midi à Lyon ? L'ancien archevêque d'Alger s'est éteint cette semaine à l'âge de 91 ans. En Algérie, ce religieux a été le témoin direct des atrocités de la décennie noire. Environ 200 000 personnes victimes d'attentats ou de massacres imputés au groupe islamiste entre 92 et 2002. Au cours de sa vie, Monseigneur Tessier aura œuvré pour l'amitié entre les peuples et le dialogue entre les religions. Un de ses proches le raconte à Mathilde Imberti.
Guy Delorme m'a accompagné Henri Tessier jusqu'au dernier souffle. Ami de longue date et prêtre spécialiste du dialogue interreligieux au diocèse de Lyon, il reçoit en continu depuis la mort de l'ancien archevêque d'Alger des messages d'amitié.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien dans le monde entier, c'est pas seulement l'islam. Il y a des raidissements autour des identités et souvent autour des identités religieuses. Et donc on pourrait dire, comme disait l'écrivain Amin Malouf, que les identités meurtrières sont en train de se renforcer. En revanche, dans la vie de tous les jours, on voit plein de belles rencontres. La mort d'Henri Tessier en témoigne encore. Le nombre de musulmans qui nous font connaître leur peine, c'est bien le signe que cet homme touchait au-delà des frontières, des lieux de culte, j'ai envie de dire.
Henri Tessier, 65 ans de vie en Algérie, qui durant la décennie noire a fait le choix de rester. Il a vécu l'assassinat de 19 religieux, dont les moines de Tibérine. C'est lui qui a œuvré à leur béatification, célébrée finalement en 2018, une première en terre musulmane.
C'est lui qui avait enclenché cette dynamique, non pas pour les mettre en dehors de tous les Algériens, je vous disais tout à l'heure, les 250 000 morts algériens, mais parce qu'il était conscient que ces hommes et ces femmes étaient restés par amour. Et puis, il connaissait les enjeux de ce monde et il sait très bien qu'un des grands défis pour les décennies à venir, ce sont les relations entre les religions. Et pour lui, l'exemple de tous ses frères et sœurs morts, dont les moines de Tibérine, mais pas seulement, ce sont des témoins de la fraternité, de la réconciliation, notamment entre chrétiens et musulmans.
Après ses funérailles célébrées à Lyon aujourd'hui, Henri Tessier sera inhumé en Algérie.
Mathilde Imberti. Les médias officiels chinois annoncent la mort de 18 ouvriers dans une mine de charbon du sud-ouest du pays en cause d'une fuite de gaz. Les secours tentent toujours d'atteindre 5 autres ouvriers, toujours piégés sous terre. À ce stade, seule une personne a survécu. Les accidents de ce genre sont courants en Chine. Les règles de sécurité sont rarement appliquées dans les mines. Après l'Irak et l'Afghanistan, Donald Trump ordonne le retrait de la majorité des troupes américaines de Somalie d'ici le début de l'année prochaine. Autrement dit, juste avant son propre départ du pouvoir. Ce troisième repli ne semble pas répondre à de quelconques avancées tactiques sur le terrain. Manifestement, Eric Biegala, le président des États-Unis, agit pour tenir sa promesse de mettre un terme à ce qu'il appelle les guerres sans fin.
L'annonce du retrait somalien a suivi de très près la visite surprise dans le pays du tout nouveau secrétaire à la Défense, Christopher Miller, nommé en remplacement de Mark Esper, lui-même remercié par Trump le mois dernier. Esper était notoirement opposé à tout allègement du dispositif militaire américain, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou encore en Somalie. Dans ce pays de la Corne de l'Afrique, environ 700 hommes de l'armée américaine étaient positionnés pour essentiellement former les cadres et les combattants de l'armée somalienne, mais également pour conduire quelques missions offensives contre les groupes Al-Shabaab, affiliés à Al-Qaïda, ainsi que l'État islamique, notamment des bombardements par drone. Le nombre de ceux-ci a même drastiquement enflé sous l'administration de Donald Trump, mais la menace djihadiste est loin d'avoir été réduite. Certains élus ou fonctionnaires somaliens ont prévenu qu'un tel retrait américain pourrait se révéler désastreux et constituerait en tout cas un coup de pouce certain aux djihadistes. Le mois dernier, un rapport d'enquête conjoint des inspecteurs généraux américains de la Défense, du Département d'État et de l'Agence pour le Développement conseillait aussi de renoncer à un tel retrait, avertissant que les forces de sécurité somaliennes n'étaient toujours pas en mesure de résister à la menace djihadiste dans le pays sans le soutien des troupes américaines. Donald Trump a donc décidé une fois de plus de passer outre l'avis de ses généraux, de ses hauts fonctionnaires ou même de ses ministres pour essentiellement tenir une promesse de campagne faite en 2016.
Éric Biegala. En Argentine, les grandes fortunes mises à contribution dans la lutte contre le coronavirus. Après la Chambre des députés, le Sénat vote une loi instituant un impôt extraordinaire pour les plus riches, environ 12 000 contribuables concernés. Cet impôt vise à aider les plus démunis et les petites entreprises. Il est censé rapporter quelques 3 milliards de dollars. Le Covid-19 bouscule l'organisation des élections législatives au Koweït. Elles ont débuté ce matin. Des bureaux de vote spéciaux ont été installés pour les personnes contaminées. Plus d'un demi-million d'électeurs sont appelés aux urnes. Ce scrutin intervient alors que la crise sanitaire a déclenché une forte baisse des prix du pétrole et de graves conséquences économiques pour les États du Golfe. Les résultats sont attendus demain.
La bulle économique, Catherine Pétillon.
Et aujourd'hui, Catherine, vous revenez sur l'initiative Tech for Good.
Mettre la technologie au service du progrès humain, voilà l'engagement sur papier de 73 grandes entreprises mondiales. Elles ont signé cette semaine une tribune aux côtés d'Emmanuel Macron pour ce qu'il nomme une Tech for Good. Un Internet, une technologie qui participerait à un monde meilleur donc. Parmi les signataires, on trouve pêle-mêle des entreprises mondiales comme Google, Facebook, des groupes de l'économie traditionnelle, Engie, BNP Paribas ou encore des start-up. Tous s'engagent, mais de façon purement symbolique, à lutter contre les contenus haineux, à une juste contribution fiscale ou encore à la protection des données. Depuis 2018, Emmanuel Macron organise des rencontres à l'Élysée autour de ce thème. Cette année, Covid oblige, cela prend la forme d'une déclaration commune de bonnes intentions. Or, cette dernière arrive en plein débat à l'échelle européenne sur la régulation du numérique. Mi-décembre, la Commission européenne doit présenter deux textes importants, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, dont l'objectif est de mieux contrôler le pouvoir des grandes plateformes. Bruxelles veut leur imposer des interdictions, se donner les moyens de mieux lutter contre les abus, d'autant que les amendes infligées régulièrement à Google, par exemple, ne changent rien à ces pratiques. Les textes réglementeront également la lutte contre les contenus illégaux. Or, Google, signataire de cette tribune Tech for Good, donc, organise comme d'autres un lobbying puissant contre ces futurs règlements. C'est ce qu'a encore montré un document sur sa stratégie d'influence qui a fuité dans la presse en octobre. Certains principes de cette déclaration d'intention sont donc au cœur même de leur bataille contre le texte. La première question donc, c'est quel sens donner à ces engagements quand les pratiques sont pratiquement inverses. Par exemple, les plateformes type Uber ou Deliveroo sont connues pour mal rémunérer leurs travailleurs, ne pas respecter leurs droits sociaux, et la France, elle, a pour leur choisi de ne pas légiférer sur d'éventuelles obligations, préférant des chartes non contraignantes. Ce texte peut jouer un rôle dans le rapport de force, avance l'Élysée qui veut y voir des engagements opposables demain aux entreprises. Or, pour les géants du numérique, au-delà des enjeux d'image, une telle tribune s'inscrit dans leur stratégie de lobbying adoptée de longue date, à savoir ne pas seulement lutter contre telle ou telle législation, mais infléchir le cadre même. En l'occurrence, définir ce que serait un Internet éthique, transparent et rendant le monde meilleur. Car c'est l'autre question. De quoi ce Tech for Good est-il le nom ? L'expression a commencé à se déployer il y a une dizaine d'années avec des événements comme le Social Innovation Camp. Elle désigne plusieurs choses, les innovations numériques, avec ce que beaucoup appellent désormais un impact social positif sur la société, et plus largement, les usages de la technologie au service de l'intérêt général ou des objectifs de développement durable de l'ONU. Seulement voilà, ça ne correspond à aucun statut, label, obligation juridique. Le good ne serait-il qu'un mood ? Dit autrement, qui et sur quels critères peut décider de ce qui est bon pour tous ? et quelle place doivent y avoir les intérêts particuliers des entreprises? Alors bien sûr, ces initiatives privées répondent à une demande de plus en plus forte, citoyenne, d'un Internet plus éthique et transparent. Mais elles reposent aussi sur l'idée sous-jacente que la technologie pourrait en elle-même être porteuse d'améliorations, sans interroger la manière dont elle peut être conçue, déployée, utilisée. C'est peut-être là l'un des enjeux majeurs des régulations nationales et européennes à venir.
Catherine Pétillon, votre bulle éco est à réécouter et à podcaster sur franceculture.fr. Le temps cet après-midi, pluvieux à l'ouest, plus clément à l'est. Comptez 4 degrés à Strasbourg, 5 à Lille, 6 à Paris, 8 à Bordeaux, 9 à Brest, 10 à Marseille et Nice, 13 à Ajaccio sous la pluie. Ce journal a été réalisé par Emily Chili, moyen technique Clara Gallivelle.